Extrait du Nom de la Rose, Umberto Eco. Prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu et la tâche d'un moine fidèle serait de répéter chaque jour, avec humilité psalmodiante, l'unique, inchangeable événement dont on puisse affirmer l'incontestable vérité. Mais videmus nunc per speculum et ina enigmat et la vérité, avant le face-à-face, se manifeste par fragments. Hélas, combien illisible dans l'erreur du monde, si bien que nous devons en annoncer les signes fidèles, même là où ils nous semblent obscurs, et comme le tissu d'une volonté visant exclusivement au mal. Arrivé au terme de ma vie de pêcheur, tandis que chenu, vieilli comme le monde, dans l'attente de me perdre en l'abîme sans fond de la divinité silencieuse et déserte, participant de la lumière immuable des intelligences angéliques, désormais retenue par mon corps lourd et malade dans cette cellule de mon cher monastère de Melk, je m'apprête à laisser sur ce vélin témoignage des événements admirables et terribles auxquels, dans ma jeunesse, il me fut donné d'assister. En répétant verbatim tout ce que je vis et entendis, sans me hasarder à en tirer un dessein, comme pour laisser à ceux qui viendront, si l'Antéchrist ne les devance, des signes de signes, afin que sur eux s'exerce la prière du déchiffrement. Que le Seigneur m'accorde la grâce d'être le témoin transparent des événements qui eurent lieu à l'abbaye, dont il est bon et charitable, de taire même le nom désormais. Vers la fin de l'année du Seigneur 1327, où l'empereur Louis descendit en Italie pour reconstruire la dignité du Saint-Empire romain, suivant les plans du Très-Haut, et, pour confondre, l'infâme usurpateur, simoniaque et hérésiarque, qui, en Avignon, couvrit de honte le saint nom de l'apôtre. Je veux dire l'âme pécheresse de Jacques de Cahors, que les impies honorèrent sous le nom de Jean XXII. Sans doute, pour mieux comprendre les situations où je me trouvais mêlée, est-il bon que je rappelle ce qui se passait en ce début de siècle, tel que je le compris alors en le vivant, et comme je me le remémore maintenant, enrichi d'autres récits que j'ai entendus après, si ma mémoire est encore en mesure de renouer les fils de si nombreux et si confus événements. Dès les premières années de ce siècle, le pape Clément V avait transféré le siège apostolique en Avignon, laissant Rome en proie aux ambitions des seigneurs locaux. Et graduellement, la ville très sainte de la chrétienté s'était transformée en un cirque ou en un lupanar. Déchirée par les luttes entre ses grands, elle se disait république et ne l'était pas, battue par des bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Des ecclésiastiques s'étant soustraits à la juridiction séculaire, commandaient des groupes de rebelles et vivaient de rapines, l'épée à la main, prévariquaient et organisaient d'ignobles trafics. Comment empêcher que la Caput Mundi redevint, et fort justement, le but de qui voulait coiffer la couronne du Saint-Empire romain et restaurer la dignité de cette domination temporelle qui, jadis, avait été celle des Césars. Voilà donc qu'en 1314, cinq princes allemands avaient élu à Francfort Louis de Bavière comme suprême gouverneur de l'Empire. Mais, le jour même, sur l'autre rive du Main, le comte palatin du Rhin et l'archevêque de Cologne avaient élu à la même dignité Frédéric d'Autriche. Deux empereurs pour un seul trône et un seul pape pour deux, situation qui devint en vérité cause de grand désordre. Deux années plus tard était élu en Avignon le nouveau pape, Jacques de Cahors, âgé de 72 ans, sous le nom précisément de Jean XXII. Et fasse le ciel que jamais plus aucun pontife ne prenne un nom désormais si haï des bonnes gens. Français et dévoué au roi de France, les hommes de cette terre corrompue sont toujours enclins à favoriser les intérêts des leurs et sont incapables de regarder le monde entier comme leur patrie spirituelle, il avait soutenu Philippe le Bel contre les Templiers, que le roi avait accusé, injustement je crois, de crimes ignominieux pour s'emparer de leurs biens avec la complicité de cet ecclésiastique renégat. Entre-temps, s'était inséré dans cette trame sans pareil Robert de Naples, qui, pour garder le contrôle de la péninsule italienne, avait convaincu le pape de ne reconnaître aucun des deux empereurs allemands, restant ainsi capitaine général de l'état de l'Église. En 1322, Louis de Bavière l'emportait sur son rival Frédéric. Sa crainte d'un seul empereur était encore plus grande qu'elle ne l'avait été de deux. Jean excommunia le vainqueur et celui-ci en retour dénonça le pape comme hérétique. Il faut dire que justement cette année-là avait lieu à Pérouse le chapitre des frères franciscains. Et leur général, Michel de Cézanne, en accueillant les instances des spirituels, dont j'aurai encore l'occasion de parler, avait proclamé comme vérité de foi la pauvreté de Christ qui, s'il avait possédé quelque chose avec ses apôtres, cela avait été seulement comme usus facti, digne résolution, visant à sauvegarder la vertu et la pureté de l'ordre, mais fort mal accueilli du pape qui, sans doute, y entrevoyait un principe susceptible de mettre en danger les prétentions mêmes que lui, chef de l'Église, avait de contester à l'Empire le droit d'élire les évêques, prétendant en retour, pour le Saint-Siège, celui d'investir l'empereur. Pour ces raisons, ou d'autres, qui le poussaient à en agir ainsi, Jean condamna en 1323 les propositions des franciscains dans la décrétale Cum inter non nullos. Ce fut à ce moment-là, j'imagine, que Louis vit dans les franciscains, ennemis du pape, désormais, de puissants alliés. En affirmant la pauvreté de Christ, il fortifiait, en quelque sorte, les idées des théologiens impériaux, à savoir de Marcille de Padoue et Jean de Jandun. Et enfin, quelques mois avant les événements que je vais raconter, Louis, qui avait conclu un accord avec le vaincu Frédéric, descendait en Italie, était couronné à Milan, entrait en conflit avec les Visconti, qui pourtant l'avait accueilli avec faveur, mettait le siège devant Pise, nommait vicaire impérial Castruccio, duc de Lucque et de Pistoia, et je crois qu'il faisait mal, car je ne connus jamais homme plus cruel, sauf peut-être Uguccione della Faggiola. Et à présent, il s'apprêtait à fondre sur Rome, appelé par Sierra Colonna, seigneur du lieu. Telle était la situation quand, déjà novice bénédictin, au monastère de Melk, je fus arraché à la tranquillité du cloître par mon père, qui se battait dans la suite de Louis, non le moindre d'entre ses barons, et qui trouva sage de m'emmener avec lui pour que je connusse les merveilles d'Italie et fusse présent quand l'empereur serait couronné à Rome. Mais le siège de Pise l'absorba tout entier dans des préoccupations militaires. J'en tirai avantage en circulant, mi par oisiveté, mi par désir d'apprendre, dans les villes de la Toscane. Mais cette vie libre et sans règles ne seyait point, pensèrent mes parents, à un adolescent voué à la vie contemplative. Et, sur la suggestion de Marcille, qui s'était pris d'affection pour moi, ils décidèrent de me placer auprès d'un docte franciscain, frère Guillaume de Baskerville. Ce dernier allait entreprendre une mission qui devait le conduire jusqu'à des villes célèbres et des abbayes très anciennes. C'est ainsi que je devins son secrétaire en même temps que son disciple. Je n'eus pas à m'en repentir, car je fus avec lui le témoin d'événements dignes d'être consignés, tels qu'à présent je le fais, et confiés à la mémoire de ceux qui viendront après moi. Alors, je ne savais pas ce que frère Guillaume cherchait, et à vrai dire, je ne le sais toujours pas aujourd'hui, et je présume que lui-même ne le savait pas, mu qu'il était par l'unique désir de la vérité, et par le soupçon, que je lui vis toujours nourrir, que la vérité n'était pas ce qu'elle lui paraissait dans le moment présent. Et, en ces années-là, il était sans doute distrait de ses chères études par les devoirs impérieux du siècle. La mission dont Guillaume était chargé me resta inconnue tout au long du voyage. Autrement dit, il ne m'en parla pas. Ce fut plutôt en écoutant des bribes de conversation qu'il eut avec les abbés des monastères où au fur et à mesure nous nous arrêtâmes que je me fis quelque idée sur la nature de sa tâche. Cependant, je ne la compris pas pleinement, tant que nous ne parvînmes pas à notre but, comme je le dirai ensuite. Nous avions pris la direction du Septentrion, mais notre voyage ne suivit pas une ligne droite et nous nous arrêtâmes dans plusieurs abbayes. Il arriva ainsi que nous virâmes vers l'Occident, tandis que notre destination dernière se trouvait à l'Orient, comme pour longer la ligne montueuse qui, depuis Pise, même dans la direction des chemins de Saint-Jacques, en faisait halte sur une terre que les terribles événements qui s'y passèrent me dissuade de mieux identifier, mais dont les seigneurs étaient fidèles à l'Empire et où les abbés de notre ordre, d'un commun accord, s'opposaient au pape hérétique et corrompu. Notre voyage dura 2 semaines, entrecoupé de moult vicissitudes, et dans ce laps de temps, j'eus la possibilité de connaître, pas suffisamment, loin de là, comme j'en suis toujours convaincu, mon nouveau maître. Dans les pages qui suivent, je ne veux pas m'attarder à des descriptions de personnes, sauf quand l'expression d'un visage ou un geste apparaissent comme les signes d'un langage muet mais éloquent. Car comme dit Boèce, rien n'est plus fugace que la forme extérieure qui fane et se métamorphose comme les fleurs des champs au début de l'automne. Et que signifierait aujourd'hui de dire que l'abbé Abon avait l'œil sévère et les joues pâles, quand désormais lui-même et ceux qui l'entouraient sont poussière, et que de la poussière leur corps a désormais la grisaille mortifère. L'âme seule, si Dieu le veut, resplendissant d'une lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Mais Guillaume, lui, je voudrais le décrire, et une fois pour toutes, car chez lui me frappèrent aussi les traits singuliers, et c'est le propre des jeunes hommes que de se lier à un homme plus âgé et plus sage, non seulement pour le charme de sa parole et la sagacité de son esprit, mais bien aussi pour la forme superficielle de son corps, qui se fait plus cher, comme il advient pour la figure d'un père dont on étudie les gestes et le courroux dont on épie le sourire. Sans qu'aucune ombre de luxure ternisse cette manière, unique peut-être en son extrême pureté, d'amour corporel. Les hommes d'autrefois étaient beaux et grands. Maintenant, ce sont des enfants et des nains. Mais c'est là, fait parmi tant d'autres, témoignant du malheur d'un monde qui vieillit. La jeunesse ne veut plus rien apprendre, la science est en décadence. Le monde entier marche sur la tête. Des aveugles guident d'autres aveugles et les font se précipiter dans les abîmes. Les oiseaux se lancent dans le vide avant d'avoir volé. L'âne sonne de la lyre, les bœufs dansent. Marie n'aime plus la vie contemplative et Marthe n'aime plus la vie active. Léa est stérile, Rachel a l'œil charnel. Caton fréquente les lupanars, Titus Lucrèce devient femme. Tout est détourné de son propre cours. Dieu soit loué, moi, en ces temps-là, j'acquis de mon maître l'envie d'apprendre et le sentiment du droit chemin, qu'on garde quand bien même la sente serait tortueuse. Or, donc, l'apparence physique de frère Guillaume était-elle qu'elle attirait l'attention de l'observateur le plus distrait ? Sa taille dépassait celle d'un homme normal et il était si maigre qu'il en paraissait plus grand. Il avait les yeux vifs et pénétrants. Son nez effilé et légèrement aquilin conférait à son visage l'expression de quelqu'un qui veille, sauf dans les moments de torpeur dont je parlerai. Son menton aussi révélait en lui une forte volonté, même si son visage allongé et recouvert d'éphélides, comme souvent de fois je le vis chez les gens nés entre l'Hibernie et la Northumbrie, pouvait parfois exprimer incertitude et perplexité. Je m'aperçus avec le temps que ce qui paraissait manque d'assurance était au contraire et seulement curiosité, mais au début je savais bien peu de cette vertu que je croyais plutôt une passion de l'esprit concupiscible, pensant que l'esprit rationnel ne devait pas s'en nourrir, comme il ne se repaissait que du vrai qu'on connaît déjà, à Argège, dès le commencement. Enfant que j'étais, la première chose qui m'avait frappée chez lui, c'était certains toupillons de poils jaunâtres qui sortaient de ses oreilles et ses sourcils touffus et blonds. Il pouvait compter 50 printemps et il était donc déjà très vieux, mais son corps infatigable se déplaçait avec une agilité qui me faisait souvent défaut à moi-même. Son énergie paraissait inépuisable quand il devait affronter un excès d'activité, mais de temps en temps, comme si son esprit vital participait de l'écrevisse, il allait à reculons dans des moments d'inertie. Et je le vis rester des heures durant sur son grabat dans sa cellule, prononçant à grand-peine quelques monosyllabes sans contracter un seul muscle de son visage. En ces occasions-là, apparaissait dans ses yeux une expression de vide et d'absence, et j'aurais soupçonné qu'il était sous l'empire de quelques substances végétales susceptibles de donner des visions, si l'évidente tempérance qui réglait sa vie ne m'avait pas induit à repousser cette pensée. Toutefois, je ne cacherai pas que, au cours du voyage, il s'était parfois arrêté au bord d'un pré, à l'orée d'une forêt, pour recueillir certaines herbes. Toujours la même, je crois. Et il se mettait à la mastiquer, l'air absorbé. Il en gardait sur lui une petite provision et en mangeait dans les moments de plus grande tension. Et nous en eûmes souvent à l'abbaye. Quand une fois je lui demandais de quoi il s'agissait, il dit en souriant qu'un bon chrétien peut parfois prendre des leçons, même chez les infidèles. Et quand je lui demandais d'en goûter, il me répondit que, comme pour les discours, il y a aussi des simples pour les paidikoi et les ephebikoi et les ginekeoi et ainsi de suite. Si bien que les herbes qui sont bonnes pour un vieux franciscain ne sont pas bonnes pour un jeune bénédictin. Dans le temps que nous fûmes ensemble, nous n'eûmes pas l'occasion de mener une vie très régulière. À l'abbaye même, nous veillâmes la nuit et tombâmes de fatigue le jour, et ne prîmes point régulièrement part aux offices sacrés. Pourtant, rarement en voyage, il veillait passé compli, et il avait des habitudes frugales. Quelquefois, comme il advint à l'abbaye, il déambulait toute la journée dans le potager, examinant les plantes comme si c'était des chrysoprases ou des émeraudes, et je le vis rôder dans la crypte du trésor en regardant un écrin constellé d'émeraudes et de chrysoprases, comme si c'était un buisson de stramoine. D'autres fois, il restait un jour entier dans la grande salle de la bibliothèque, en feuilletant des manuscrits comme pour son seul plaisir. Quand autour de nous se multipliaient les cadavres de moines horriblement oxys. Un jour, je le trouvai qui se promenait dans le potager, sans aucun but apparent, comme s'il ne devait pas rendre compte à Dieu de ses œuvres. Dans l'ordre, on m'avait enseigné une toute autre façon de répartir mon temps, et je le lui dis. Et lui répondit que la beauté du cosmos est donnée non seulement par l'unité dans la variété, mais aussi par la variété dans l'unité. Ce me sembla une réponse dictée par un empirisme sans gêne, mais J'appris par la suite que les hommes de cette ère définissent souvent les choses de façon telle qu'on dirait que la force illuminante de la raison n'y a pas grand rôle. Pendant la période que nous passâmes à l'abbaye, je lui vis toujours les mains recouvertes de la poussière des livres, de l'or des enluminures encore fraîches, de substances jaunâtres qu'il avait touchées dans l'hôpital de Séverin. On aurait dit qu'il ne pouvait penser qu'avec les mains, chose qui alors me semblait plus digne d'un mécanicien, et on m'avait appris que le mécanicien est mocus et commet un adultère au regard de la vie intellectuelle à laquelle il devrait être uni en un trait chaste nœud. Mais quand bien même ses mains touchaient des choses très fragiles, comme certains codes aux miniatures encore fraîches, ou des pages consumées par le temps et friables comme du pain azyme. Il possédait, me sembla-t-il, une extraordinaire délicatesse de tact, la même dont il usait pour toucher ses machines. Je dirais en effet que cet homme curieux emportait avec lui, dans son sac de voyage, des instruments que je n'avais jamais vus jusqu'alors et qu'il qualifiait comme ses merveilleuses machines. Les machines, disait-il, sont effets de l'art, qui singent la nature, dont elles reproduisent non pas les formes mais la même opération. Il m'expliqua les prodiges de l'horloge, de l'astrolabe et de l'aimant. Mais au début, je craignis qu'il ne s'agît de sorcellerie et je fis semblant de dormir par certaines nuits claires, où il se mettait, un curieux triangle à la main, à observer les étoiles. Les franciscains que j'avais connus en Italie et sur ma terre étaient des hommes simples, souvent illettrés, et je lui fis part de mon étonnement devant sa science. Mais lui me dit en souriant que les franciscains de ces îles étaient d'une autre espèce. Roger Bacon, que je vénère comme mon maître, nous a appris que le plan divin passerait un jour par la science des machines, qui est magie naturelle et sainte. Et un jour, par force de nature, on pourra faire des instruments de navigation grâce à quoi les bateaux iront unico homine regente. Et bien plus vite que poussés par des voiles ou des rames. Et il y aura des chariots, ut sine animali moventur cum impetu inestimabili, et instrumenta volandi, et homo sedens in medio instrumenti revolvens aliquod ingenium per quod alae artificialiter compositae aerem verberent ad modum avis volantis. Et des instruments minuscules qui soulèvent des poids infinis et des véhicules qui permettront de voyager sur le fond de la mer. Quand je lui demandais où se trouvaient ces machines, il me dit qu'elles avaient déjà été faites dans l'Antiquité, et certaines même à notre époque. À l'exception de l'instrument pour voler, que je n'ai pas vu et dont je n'ai rencontré personne qui l'eût vu, mais je connais un savant qui l'a conçu. Et on peut faire des ponts qui enjambent les fleuves sans colonnes ou autres appuis, et encore d'autres machines inouïes. Tu n'as pas à t'inquiéter si elles n'existent pas encore, parce que cela ne veut pas dire qu'elles n'existeront pas. Et moi, je te dis que Dieu veut qu'elles soient, et déjà elles sont sûrement dans son esprit, même si mon ami d'Oxham nie que les idées existent de cette façon. Et non pas parce que nous ne pouvons décider de la nature divine, mais précisément parce que nous ne pouvons lui poser aucune limite. Ce ne fut certes pas la seule proposition contradictoire que je lui entendis énoncer. Mais même à présent que je suis vieux et plus sage qu'en ce temps-là, je n'ai pas définitivement compris comment il pouvait avoir une telle confiance en son ami Oxham et à la fois ne jurer que sur Bacon, selon son habitude. Il n'en reste pas moins que c'était là des temps obscurs où un homme sage devait entretenir des pensées contradictoires. Voilà, j'ai dit de frère Guillaume des choses peut-être insensées, comme pour recueillir dès l'abord les impressions décousues que j'en eus alors. Qui il fut et ce qu'il fit, mon bon lecteur, tu pourras peut-être mieux le déduire des actions qu'il mena dans les jours que nous passâmes à l'abbaye. D'ailleurs, Je ne t'ai pas promis une composition parfaite, mais bien une liste de faits. Ça, oui, admirable et terrible. Ainsi, en connaissant jour après jour mon maître et en passant nos longues heures de marche en de très longues conversations dont, le cas échéant, je parlerai au fur et à mesure, nous parvînmes au pied du mont où se dressait l'abbaye. Et il est temps, comme jadis nous le fîmes, que mon récit s'approche d'elle. Puisse ma main ne point trembler au moment où je m'apprête à dire tout ce qui ensuite arriva. Premier jour. Primé. Où l'on arrive au pied de l'abbaye et Guillaume fournit une preuve de sa grande sagacité. C'était une belle matinée de la fin novembre. Dans la nuit, il avait neigé un peu, mais le terrain était recouvert d'un voile frais, pas plus haut que 3 doigts. En pleine obscurité, sitôt après l'aude, nous avions écouté la messe dans un village de la vallée. Puis, nous nous étions mis en route vers les montagnes, au lever du soleil. Comme nous grimpions par le sentier abrupt qui serpentait autour du mont, je vis l'abbaye. Ce ne furent pas les murailles qui l'entouraient de tous côtés qui m'étonnèrent, semblables à d'autres que je vis dans tout le monde chrétien, mais la masse imposante de ce que j'appris être l'édifice. C'était là une construction octogonale qui, vue de loin, apparaissait comme un tétragone, figure absolument parfaite qui exprime la solidité et le caractère inexpugnable de la cité de Dieu, dont les côtés méridionaux se dressaient sur le plateau de l'abbaye, tandis qu'au septentrion, il paraissait s'élever des pentes même du monde d'où il s'énervait à pic. Je dis qu'en certains points, vus d'en bas, il semblait que le rocher se prolongeait vers le ciel, sans solution de teinte et de matière, et devenait à un certain point donjon et tour, ouvrage de géant, qui aurait grande familiarité avec la terre et avec le ciel. 3 ordres de verrières disaient le rythme ternaire de sa surélévation, si bien que ce qui était physiquement carré sur la terre était spirituellement triangulaire dans le ciel. À mesure qu'on s'en approchait davantage, on comprenait que la forme quadrangulaire produisait, à chacun de ses angles, une tour heptagonale dont 5 côtés s'avançaient vers l'extérieur. 4 donc des 8 côtés de l'octogone majeur produisant 4 heptagones mineurs, qui, vus de l'extérieur, apparaissaient comme des pentagones. Et il n'est personne qui ne voit l'admirable concordance de tant de nombres saints, chacun révélant un très subtil sens spirituel. 8. Le nombre de la perfection de tout tétragone. 4. Le nombre des évangiles. 5. Le nombre des parties du monde. 7. Le nombre des dons de l'Esprit Saint. Par sa masse imposante et par sa forme, l'édifice m'apparut comme plus tard il me serait donné de voir dans le sud de la péninsule italienne Castel Ursino ou Castel Dal Monte, mais par sa position inaccessible, il était des plus terribles et capable d'engendrer de la crainte chez le voyageur qui s'en approchait peu à peu. Et heureusement, par cette cristalline matinée d'hiver, la construction ne m'apparut pas telle qu'on la voit dans les jours de tempête. Je ne dirais pourtant pas qu'elle suggérait des sentiments joyeux. Pour ma part, j'en éprouvais de la peur et une inquiétude diffuse. Dieu sait qu'il ne s'agissait pas de fantômes de mon âme immature, et que j'interprétais exactement d'indubitables présages inscrits dans la pierre, depuis le jour où les géants y mirent la main, et avant que la naïve volonté des moines ne s'enhardît à la consacrer à la garde de la parole divine. Tandis que nos mulets avançaient péniblement dans le dernier tournant de la montagne, là où le chemin principal se divisait et donnait naissance à deux sentiers latéraux, mon maître s'arrêta quelques instants. Observant les bas-côtés de la route et la route, où une série de pins en pervirens formait sur une brève distance un toit naturel blanchi par la neige. « Riche abbaye, » dit-il. L'abbé aime faire belle figure dans les occasions publiques. Habitué que j'étais à l'entendre émettre les plus singulières affirmations, je ne l'interrogeais pas, d'autant que, après un autre bout de chemin, nous entendîmes des bruits et, à un tournant, apparut une troupe de moines et de servants. L'un d'eux, comme il nous vit, vint à notre rencontre avec une grande urbanité. « Bienvenue, Seigneur, » dit-il. Et point ne vous étonne si j'imagine qui vous êtes, parce que nous avons été avertis de votre visite. Moi, je suis Remigio de Varagine, le scélérier du monastère. Et si vous êtes, comme je le crois, frère Guillaume de Baskerville, il faudra en aviser l'abbé. « Toi !» ordonna-t-il en direction d'un de sa suite. « Remonte et avertis que notre visiteur s'apprête à franchir l'enceinte. » « Je vous remercie, Seigneur Célérier, » répondit cordialement mon maître. « Et j'apprécie d'autant plus votre courtoisie que pour me saluer, vous avez interrompu votre poursuite. Mais n'ayez crainte, le cheval est passé par ici et a pris le sentier de droite. Il ne pourra pas aller bien loin car, arrivé au dépôt des litières, il devra s'arrêter. Il est trop intelligent pour se précipiter le long du terrain abrupt. « Quand l'avez-vous vu ?» demanda le scélérier. Nous ne l'avons pas vu du tout, n'est-ce pas, Adzo ? Dit Guillaume en se tournant vers moi d'un air amusé. Mais si vous cherchez Brunel, l'animal ne peut être que là où j'ai dit. Le scélérier hésita. Il regarda Guillaume, puis le sentier, et enfin demanda : Brunel ? Comment savez-vous ? Allons, allons ! Dit Guillaume. Il est évident que vous êtes en train de chercher Brunel, le cheval préféré de l'abbé, le meilleur galopeur de votre écurie, avec sa robe noire, ses 5 pieds de haut, sa queue somptueuse, son sabot petit et rond, mais au galop très régulier, tête menue, oreille étroite, mais grands yeux. Il a pris à droite, je vous dis, et dépêchez-vous en tout cas. Le scélérier eut un moment d'hésitation. Puis, il fit un signe au sien et se précipita dans le sentier de droite, tandis que nos mulets se remettaient à monter. Alors que, piqué de curiosité, j'allais interroger Guillaume, il me fit signe d'attendre. Et, de fait, après quelques brèves minutes, nous entendîmes des cris de jubilation et au tournant du sentier réapparurent moines et servants qui ramenaient le cheval par le mors. Ils repassèrent à côté de nous en continuant de nous regarder d'un air plutôt ahuri, et ils nous précédèrent sur le chemin de l'abbaye. Je crois que Guillaume ralentissait le pas de sa monture pour leur permettre de raconter ce qui était arrivé. De fait, j'avais eu l'occasion de me rendre compte que mon maître, à tout égard d'homme de suprême vertu, s'abandonnait au vice de la vanité quand il s'agissait de donner la preuve de son acuité d'esprit. Comme j'en avais déjà apprécié les dons de subtils diplomates, je compris qu'il voulait arriver au but précédé d'une solide renommée d'homme savant. « Et maintenant, dites-moi, à la fin je ne sus me retenir, comment avez-vous fait pour savoir ?»« Mon bon Natsuo, » dit le maître, « j'ai passé tout notre voyage à t'apprendre à reconnaître les traces par lesquelles le monde nous parle comme un grand livre. » Alain de Lille disait que « Omnis mundi creatura, quasi liber et pictura, nobis est in speculum ». Et il pensait à l'inépuisable réserve de symboles avec quoi Dieu, à travers ses créatures, nous parle de la vie éternelle. Mais l'univers est encore plus loquace que ne le pensait Alain, et non seulement il parle des choses dernières, en dans ce cas-là, il le fait d'une manière obscure, mais aussi des choses proches, et alors là, d'une façon lumineuse. J'ai presque honte de te répéter ce que tu devrais savoir. Au croisement sur la neige encore fraîche se dessinaient avec grande clarté les empreintes des sabots d'un cheval, qui pointaient vers le sentier à main gauche. À belle et égale distance l'un de l'autre, ces signes disaient que le sabot était petit et rond, et le galop d'une grande régularité. J'en déduisis ainsi la nature du cheval et le fait qu'il ne courait pas désordonnément comme le fait un cheval emballé. Là où les pins formaient comme un appentis naturel, des branches avaient été fraîchement cassées juste à la hauteur de 5 pieds. Un des buissons de mur, là où l'animal doit avoir tourné pour enfiler le sentier à sa droite, alors qu'il secouait fièrement sa belle queue, retenait encore dans ses épines de longs crins de jais. Enfin, tu ne me diras pas que tu ne sais pas que ce sentier mène au dépôt des litières, car en grimpant par le tournant inférieur, nous avons vu la bave des détritus descendre à pic au pied de la tour orientale, laissant des salissures sur la neige. Et d'après la situation du carrefour, le sentier ne pouvait que mener dans cette direction. « Oui, dis-je, mais la tête menue, les oreilles pointues, les grands yeux. » Je ne sais pas s'il en est pourvu, mais à coup sûr, les moines le croient fermement. Isidore de Séville disait que la beauté d'un cheval exige « ut sit exiguum caput, et sicum prope pelle ossibus ad aerente ores breves et argutae, oculi mani, nares patulae, erecta cervix, coma dansa et cauda, ungularum soliditate fixa rotunditas. » Si le cheval dont j'avais deviné le passage n'avait pas été vraiment le meilleur de l'écurie, on aurait peine à expliquer pourquoi ne le poursuivaient pas les seuls palefreniers. Mais que ce soit dérangé le célérier en personne et un moine qui juge un cheval excellent au-delà des formes naturelles ne peut pas ne pas le voir exactement comme les auctoritatés le lui ont décrit, surtout si... Et là, il sourit avec malice à mon endroit. C'est un docte bénédictin. Entendu, dis-je. Mais pourquoi Brunel ? Que l'Esprit Saint te mette un peu de plomb dans la tête, mon fils ! S'exclama le maître. Quel autre nom lui aurais-tu donné si le grand Buridan en personne, qui en passe de devenir recteur à Paris, devant parler d'un beau cheval, ne trouva nom plus naturel ? Tel était mon maître. Non seulement il savait lire dans le grand livre de la nature, mais aussi de la façon que les moines lisaient les livres de l'écriture et pensaient à travers ceux-ci, dont qui, comme nous verrons, devait s'avérer pour lui fort utile dans les jours qui suivraient. En outre, son explication me sembla à ce point-là si évidente que l'humiliation de ne pas l'avoir trouvé tout seul céda le pas à l'orgueil d'être dans le coup, et il s'en fallait de peu que je ne me félicitasse moi-même pour ma finesse d'esprit. Telle est la force du vrai, qui, comme le bien, se diffuse de soi-même. Et soit loué le nom saint de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette belle révélation que j'eus. Allah.